Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosumba Mwamba.
Des milliers de réfugiés centrafricains affluent actuellement dans le Bas-Zouélé. Ils sont plus de 6000 déjà, sans compter les éleveurs Mbororo. Sur place, le gouverneur de province parle des problèmes humanitaires et sécuritaires. Nord Kivu, ces conséquences de la réhabilitation en cours des ponts sur les rivières Ruindi et Rutshuru. À l'arrêt du trafic s'ajoute la promiscuité dans les quelques hôtels qui accueillent voyageurs et équipages. Et puis, familiariser les futurs étudiants au fonctionnement de l'université de Lubumbashi, c'est le but d'une journée porte ouverte organisée récemment dans cette ville. C'est le dossier à suivre en seconde partie de cette édition. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Bas-Zouélé où l'afflux des réfugiés centrafricains préoccupe les autorités politico-administratives de cette province. Ces réfugiés sont confrontés à une crise alimentaire et posent en même temps un problème d'ordre sécuritaire. Le gouverneur de la province du Bas-Zouélé l'a révélé hier à la presse de Bouta. Selon lui, leur nombre est estimé actuellement à environ 6000 personnes, soit 1200 ménages. Armand Kasumbu est joint par Jacques Moukonkolé.
Ces gens-là, quand ils ont traversé, n'ont très peu d'endroits où ils peuvent se loger. Malgré la fraternité et la solidarité congolaise, on ne peut pas loger tout le monde. Et donc, une bonne partie reste et dort à la belle étoile. Nous avons déjà décrié la situation au niveau du CNR, ainsi qu'indirectement au HCR. Et donc, nous sommes en pour parler avec eux. Et eux ont déjà proposé, je pense que la décision doit encore être prise, mais en tout cas, ils ont proposé de manière ferme un pont aérien sur Ndou pour venir en aide aux réfugiés centrafricains. L'autre aspect sécuritaire, c'est que parmi ces réfugiés qui rentrent chez nous, nous n'avons pas pu tous les contrôler encore pour savoir si parmi eux, il n'y a pas des éléments anti-balaka ou séléka. Maintenant, nous avons l'afflux aussi des éleveurs nomades Mbororo. Ils étaient déjà très très nombreux et de plus en plus nombreux chez nous, mais on a dénombré en tout cas plus de 3000 personnes qui se seraient déversées en République démocratique du Congo encore et avec près de 15 000 vaches.
Toutefois, le gouverneur Armand Kasumbu dit avoir dépêché déjà une délégation du comité provincial de sécurité dans les chefferies Gaya, Goa, Deni et Soa pour mettre en place un mécanisme de contrôle de ces réfugiés. Le rapport y relatif sera transmis aux autorités nationales, dit-il. De leur côté, les parlementaires de la province de l'Ituri s'insurgent contre la nouvelle vague d'émigration massive des présumés Hutus rwandais vers l'Ituri. Dans une déclaration ce lundi à la presse, députés nationaux et sénateurs de cette province, toutes tendances confondues, indiquent que ces migrants Hutus rwandais seraient bloqués à Goma par le gouverneur du Nord Kivu. Ils déplorent ce qu'ils qualifient de mutisme, de laxisme et d'indifférence des institutions nationales face à cette situation grave tendant à la balkanisation de la RDC. Écoutez leur porte-parole, Joseph Tchoutabilo, au micro d'Innocent Olinga.
De nombreux immigrants Hutus rwandais en route vers l'Ituri, actuellement bloqués au gouvernorat du Nord Kivu, refusent catégoriquement de retourner à Masisi, pourtant présentée comme leur terre natale. Leur refus de retourner à Masisi est une preuve manifeste de leur fausse identité congolaise. L'identité Banyabwisha leur attribuée n'est qu'une distraction et une stratégie pour leur permettre d'envahir la province de l'Ituri et de déposséder les Ituriens de leur terre natale et ancestrale sur base d'une interprétation erronée de l'article 30 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette invasion massive de la province de l'Ituri, déjà dénoncée, est perçue comme une étape de l'exécution du plan machiavélique de la balkanisation de la République démocratique du Congo.
Et justement, la République démocratique du Congo compte le plus grand nombre des personnes déplacées internes dans le monde. C'est ce qui ressort du rapport global du Centre de surveillance des déplacements internes, publié conjointement avec le Conseil norvégien pour les réfugiés ce 22 mai à New York. Selon ce rapport, depuis 2017, le pays compte plus d'un million de nouveaux déplacés, notamment suite à la crise du Kasaï, ce qui fait qu'à ce jour, la RDC a 3 700 000 déplacés. Parmi eux, 837 000 sont au Nord Kivu. La chargée des programmes au sein du Conseil norvégien pour les réfugiés indique que les bailleurs ont tendance à oublier cette crise congolaise alors que toutes ces personnes vivent dans des conditions déplorables. Boutaïna Toudjani au micro de Rosalie Zawadi.
Alors les humanitaires ont du mal à faire face à cette situation vu l'ampleur des déplacements au Congo et c'est une des raisons pour lesquelles NRC a souhaité faire ce communiqué de presse. Aussi pour alerter la communauté internationale et les bailleurs de fonds sur le besoin de renforcer les financements au Congo. D'abord parce que le plan d'action humanitaire nécessitait environ 813 millions de dollars et à ce jour, on n'a que 19,5% du plan qui sont financés. Sachant que ces 813 millions de dollars ne tenaient pas compte de cette crise majeure qu'on vit dans les Kasaï aujourd'hui. Donc il y a vraiment un besoin que les bailleurs de fonds, malgré les crises internationales dont on parle le plus en Syrie et ailleurs, le Congo est un petit peu passé sous les radars. Et alors que les besoins ont augmenté, les fonds ont largement diminué. Donc il y a vraiment un besoin urgent que les bailleurs de fonds se mobilisent pour le Congo aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, plus de 70 véhicules sont bloqués à Kanyabayonga. Nous sommes à une centaine de kilomètres au nord de Goma, au nord Kivu. Pour cause, la réhabilitation des deux ponts successivement sur les rivières Ruindi et Rutshuru en plein parc des Virunga. Conséquence, l'arrêt de la circulation des personnes et de leurs biens sur la route nationale numéro 4 vers Goma. Et du coup, une promiscuité dangereuse est observée dans des hôtels à Kirumba et à Kanyabayonga, ce qui entraîne même des cas de maladie, comme nous explique Freddy Bikumbi.
C'est pour la énième fois que le pont jeté sur la rivière Ruindi ne résiste plus au tonnage des véhicules qui empruntent cette route nationale numéro 4. Ainsi, le gouvernement provincial du Nord Kivu a décidé de les réhabiliter durablement. Déjà, à une semaine depuis le début des travaux, des véhicules en provenance de Kisangani, Bunia, Beni et Butembo sont bloqués, stationnés le long de la grande route à Kanyabayonga et à Kirumba, en attendant la fin de ces travaux, selon plusieurs sources dans la zone. Du coup, des dizaines de passagers se retrouvent à 3, voire à 4 dans une seule chambre d'hôtel à Kanyabayonga et à Kirumba, tête nord du tronçon momentanément désaffecté au sud de Lubero. D'autres prennent des motos jusqu'à plein parc de Virunga pour traverser à pied la rivière Ruindi moyennant 500 francs par personne en vue de continuer le voyage jusqu'à Kiwanja vers Goma. Le ministre provincial en charge de l'intérieur et des infrastructures, Valérien Baluturandi, indique qu'il va discuter avec ses collègues de la santé et des affaires sociales au Nord Kivu afin de permettre aux médecins chefs des zones de Kaina de prendre en charge les malades parmi ces voyageurs. Goma, Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, l'ASBL Stop Stigma Movement, œuvrant à Lubumbashi, sensibilise contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Elle mène une campagne de mobilisation depuis une semaine auprès de la population louchoise. Ce mardi, les membres de cette ASBL sont à Likasi pour la même cause. Objectif, amener la population à ne pas marginaliser les PVV. La présidente de cette ASBL, Godlive Bonané, s'exprime au micro de Colin Djumamusampo.
Nous combattons le VIH et non le porteur du VIH. Ça veut dire que nous devons tous nous focaliser sur la lutte contre le VIH, pas sur la lutte contre le porteur du VIH. Le deuxième message que je peux lancer, c'est juste en guise de rappel à la population. Le VIH n'est pas un crime, mais criminaliser le porteur du VIH devient un crime. Voilà pourquoi nous demandons toujours aux gens de ne pas commettre ce crime, puisque c'est que les gens aussi oublient, c'est que nous sommes les PVVIH. Il y a une loi qui les couvre, il y a une loi qui les protège, il y a une loi que le président lui-même de la République a signé, qui est normalement contre toute stigmatisation et toute discrimination des porteurs du virus. Le fait qu'on leur refuse du boulot, le fait qu'on leur refuse la scolarisation, le fait que les gens refusent d'acheter des histoires que eux vendent, c'est déjà une discrimination qui est normalement punie dans la loi qui a été signée par le président lui-même de la République. Le porteur peut y aller, peut vraiment aller en justice contre cette personne, puisque la loi, elle est là.
Direction la province du Kouilou, des conducteurs des taxis moto protestent depuis ce matin contre la multiplicité des taxes qu'ils sont obligés de payer à la mairie, à la province et au trésor public. Les motocyclistes crient à une sorte de tracasserie organisée contre eux par ces services de l'État et ils se sont servis des pierres pour faire face à la police. Reportage de Fabien Kambinzi.
Ils sont des milliers de conducteurs des taxis moto qui sont descendus sur l'artère principale de la ville, protestant contre une opération de bouclage organisée depuis lundi par la mairie de Kikwit. Cette dernière exige à ses motocyclistes le paiement des taxes équivaut à 80 000 francs congolais. Parmi elles, la taxe dite de numérotation des mototaxis, qui coûte 14 000 francs congolais, taxes sur l'autorisation des transports et les certificats de contrôle technique. Pour les conducteurs, il n'en est pas question, car il n'y a pas longtemps qu'ils ont versé d'autres taxes leur exigées. Ils s'étonnent de voir que cette opération se déroule quelques jours seulement après celle initiée par la SONAS. Ces conducteurs souhaitent voir, selon eux, les autorités tant de la ville que provinciale réhabiliter la seule chaussée de la ville avec beaucoup d'argent qu'ils disent avoir déjà payé. À Kikwitwa, le même mouvement des conducteurs des taxis moto a été observé mais dispersé par des coups de balle tirés par des policiers. Du côté des autorités, le maire de la ville contacté parle de la mauvaise foi de la part de ses conducteurs. Selon Léonard Moutangou, toutes ces taxes sont légales au regard de la loi. Mais toutefois, ajoute-t-il, la mairie négocie déjà avec eux pour que le calme règne dans la ville. Kikwit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Les conditions carcérales en République démocratique du Congo, nous en parlons encore. À Kongolo, la situation humanitaire des prisonniers est précaire. Le directeur de cette prison de la province du Tanganyika affirme que la quarantaine des détenus n'a ni nourriture ni eau. Jean Luamba lance un cri de détresse au micro d'Expedi Mwambamubi.
Les détenus ne se lavent pas. Ils ne boivent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens de trouver de l'eau. Ils n'ont pas de visite parce qu'il y en a d'autres qui viennent de loin qui souffrent de manque de visite. Et il n'y a pas à manger. Les cellules dans lesquelles les détenus passent leur nuit, il y a des pinaises. Alors un peu partout là, il faut des infectants. Une fois seulement qu'on a eu le service de l'hygiène qui est venu nous assister, il a désinfecté les locaux. Il n'y a ni lit, ni objet de couchage, ni quoi que ce soit. Ils couchent même les sols.
Environ deux mois après la clôture officielle des opérations de révision du fichier électoral à l'Équateur, des agents recenseurs ont organisé une nouvelle manifestation hier à Mbandaka. Ils réclamaient leur salaire du mois de février et de quelques jours supplémentaires. C'était tôt le matin au secrétariat exécutif provincial où les manifestants ont arraché une partie de la clôture en bambou avant d'allumer le feu devant le bureau, ce qui a paralysé les activités du bureau. La police qui est intervenue a dispersé les manifestants et procédé à l'interpellation de l'un d'eux, comme le témoigne le porte-parole de ses agents électoraux, Gauthier Dané, au micro de Paul-Richard Malengela.
Il y a la CENI qui bloque un peu la machine. On ne sait pas c'est à quel niveau. Il y a un fameux conseiller de la Kesti qu'on avait détaché pour le CEP Équateur. Depuis qu'il est parti à Kin, il ne revient pas. Depuis le 4 mai, le samedi passé ici, le CEP va nous garantir que le conseiller va arriver. On a maîtrisé les amis, le conseiller n'est pas arrivé ce samedi. Ce matin, on est arrivé pour poser la question au CEP de savoir à quand notre argent. Il est sorti pour nous dire qu'il n'engage pas la CENI à l'Équateur, il faut s'adresser au président national de la CENI. C'est comme cela qu'on a trouvé qu'il y a une sorte de manœuvre cachée là-dessus. Certainement, aujourd'hui on est parti, on a revendiqué nos droits, il y a le CEP qui a appelé la police, le GEMI qui est passé, il y a un ami qui est arrêté, dont nous réclamons sa libération sans délai, puisqu'il est dans ses droits, étant que citoyen congolais, de réclamer ses droits.
Contacté par Radio Okapi, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Équateur reconnaît à ses agents leur droit de réclamation. Cependant, Achille Bolekela déplore leurs actes de vandalisme. Il précise que c'est un problème de trésorerie. Ils seront bientôt payés, a-t-il ajouté, par le canal de la FBN Bank où les transactions sont en cours. Rendons-nous dans la plaine de la Ruzizi, à Uvira précisément, où la société civile de Sangé dénonce des nouveaux phénomènes d'insécurité qui appauvrissent la population. Il s'agit des cas de vol de bétail devenus récurrents et des cas d'enlèvement ou prise d'otages. Au moins 20 personnes ont été enlevées puis relâchées, moyennant une rançon et plus de 50 vaches emportées vers le Burundi au cours des trois derniers mois. Ces cas se sont produits au village de Rushabira, Rulimbi et Kibirizi. près de Sangui. Les acteurs locaux attribuent ces cas d'insécurité aux miliciens burundais d'Imbonerakure qui franchissent la rivière Ruzizi pour semer la terreur du côté congolais. Le chef de cité de Sangui reconnaît ces faits mais fustige de son côté une complicité des Congolais dans cette insécurité. Daniel Rouanika, chef de cité de Sangui, au micro de Fiston Ngoma.
C'est vrai, des cas de vol de vaches sont signalés ici à Sangui. Ils sont perpétrés la nuit par des hommes armés non autrement identifiés. Nous avons fini par nous rendre compte que les enfants d'ici sont parmi ces bandits. Nous demandons à tout le monde de dénoncer, même s'ils savent que c'est l'enfant de telle ou de telle famille qui est impliqué. Il faut que la personne soit punie selon la loi. À chaque fois que ces cas de vol de bétail surviennent, l'armée intervient la nuit comme les jours. Et de temps en temps, l'armée arrête le voleur. Et ce sont souvent les enfants d'ici. Même chose pour les enlèvements. Ils enlèvent les gens et les amènent dans la brousse. Mais quand les victimes sont relâchées, elles ne disent plus rien. Elles ne veulent pas dénoncer les bourreaux. Je demande aux jeunes de ne pas collaborer avec les bandits, de quitter ce réseau des malfaiteurs.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes d'abord en Côte d'Ivoire, où trois personnes ont été tuées ce matin lors des affrontements à Boaké entre policiers et ex-rebelles démobilisés qui bloquaient l'entrée de la ville. Ce groupe réclamait des primes similaires à celles des mutins qui ont ébranlé le pays la semaine dernière. Les trois corps ensanglantés ont été amenés au centre hospitalier universitaire de Boaké peu après l'assaut des forces de police qui ont dispersé les manifestants. En Gambie, la justice de ce pays a gelé hier les biens de l'ex-président Yahya Jammeh, soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Justice, Aboubakar Tambadou, a déclaré que Yahya Jammeh avait personnellement ou indirectement procédé au retrait illégal de l'argent à la Banque centrale, alors que ces fonds appartiennent à l'État. C'est la première fois que le nouveau gouvernement évalue officiellement les avoir retirés, selon lui et des caisses de l'État par l'ancien président gambien avant que ce dernier ne quitte le pays en janvier pour la Guinée équatoriale. En Corée du Sud, l'armée a annoncé dans un communiqué avoir procédé ce mardi à des tirs d'avertissement contre un objet en provenance de Corée du Nord, entré dans son espace aérien après avoir survolé la zone démilitarisée qui sépare les deux États rivaux. Cet objet n'a pas été identifié et son parcours radar est en train d'être étudié, indique la même source. Les autorités militaires sud-coréennes indiquent que la Corée du Nord est sous étroite surveillance et maintiennent un niveau élevé de vigilance. Terminant en Afghanistan, au moins 10 soldats afghans ont été tués lors d'une attaque menée par des insurgés contre une base militaire de la province de Kandahar, dans le sud du pays. L'annonce a été faite ce mardi par le ministère afghan de la Défense. Aucun groupe n'a revendiqué l'assaut de Kandahar pour le moment, mais il intervient alors que les talibans, en pleine résurgence, 15 ans après avoir été chassés du pouvoir par les États-Unis, ont lancé leur offensive de printemps.